Bonjour à tous. Donc pour cette deuxième conférence, on va faire je pense que ça va être trois quarts d'heure, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent pour les dédicaces. Donc nous sommes très heureux d'accueillir une artiste accomplie du monde de la BD et de l'illustration. Elle va nous parler un peu de son parcours, de ses différentes expériences, de son œuvre. Parce que là, on peut quand même parler d'œuvre.
Vu ça la fait 35 voilà. ans maintenant.
Quelques mois qu'elle a commencé. Donc, y a, dans le milieu de la bande dessinée, d'illustration, elle est évidemment très connue. Alors après, du grand public, parfois un peu moins. Quoique j'ai eu des surprises, parce que finalement, vous êtes assez connue. J'ai eu des clients qui étaient surpris de vous voir, ils ne savaient même pas que vous veniez, donc ils étaient...
Ouais, je me rends pas bien compte, en fait, mais... de ça. Je sais que comme ça fait 35 ans que je suis dans le métier, évidemment, j'ai quand même un public, ça c'est sûr. Maintenant, très connu, non, il y a plein d'auteurs qui sont plus connus que moi, surtout en bande dessinée, parce qu'en bande dessinée, je suis quand même pas... Dans l'illustration, peut-être un peu plus, surtout dans certains secteurs de l'illustration, oui. Mais en BD, non, c'est pas vraiment une grosse notoriété. Maintenant, j'ai fait quand même suffisamment d'albums pour avoir quand même... un peu de retour, heureusement.
Une petite renommée. Alors peut-être qu'on peut, on peut commencer en parlant un peu de d'où tout cela commence. C'est-à-dire que, je ne sais pas, petite, vous avez déjà des envies.
Oui, pas comme la plupart des enfants qui font une carrière ensuite dans le dessin. Ça veut dire que petit, quand même, ils avaient déjà comme moyen d'expression privilégié le crayon et le papier. Quoi. Donc oui, maintenant professionnellement, j'ai commencé très tard parce que j'ai commencé à plus de 30 ans. Donc c'est quand même relativement
tard. Ce qui est rare, hein. Ouais.
Généralement, on démarre plus vers 20-23 ans, on sort d'une école de dessin, ou même on est autodidacte, mais on fonce assez vite. Moi, c'était quand même à plus de 30 ans même, hein, plutôt 34 ans même, que j'ai vraiment commencé professionnellement à en vivre, enfin à rapporter un petit peu de sous avec mes dessins. Donc c'était tardif, et au début, c'était de l'illustration, uniquement de l'illustration, des couvertures de livres surtout, pour les collections qui s'appelaient à l'époque Présence du futur, Flavor Anticipation, etc. Et là, j'ai rencontré Yvonne Maillard, qui travaillait justement chez Présence du Futur, qui m'a confié les couvertures des Princes d'Ambre, la série, la saga des Princes d'Ambre de Roger Zelazny, qui à l'époque était une série un peu culte, un peu connue, quoi.
Donc ça, c'est les années 80. Hein.
Ça, c'était, oui, c'est ça, les années 80. Enfin, à partir entre 85 et 90, quand même, hein, puisque j'ai commencé vraiment assez tardivement. Donc c'était ces années-là. Et puis, dans l'illustration, j'ai travaillé une dizaine d'années, en faisant surtout, notamment, des couvertures de livres, plein d'autres choses, mais enfin, surtout des couvertures de livres, et puis des illustrations pour les jeux de rôle, qui, à l'époque, faisaient Florès. Alors, il y avait les rôlistes, les jeux de rôle, des revues comme Cassius Belli, où j'ai beaucoup travaillé aussi dans ce secteur-là. Et puis, après, j'ai commencé la BD, 10 ans après, quand j'avais déjà 40 ans, avec le premier album, avec Rodolphe.
Vous avez fait aussi tout ce qui est des jeux de cartes aussi, vous avez fait
vraiment... J'ai fait des jeux de cartes, oui. J'ai fait le tarot d'ambre, mais ça c'était lié aussi au jeu de rôle. Hein, le tarot d'ambre, c'est un supplément au jeu de rôle ambre. Mais j'ai fait aussi des jeux de cartes, un jeu des costumes alsaciens, un tarot des régions de France, plein de différentes choses. Moi j'aime beaucoup les jeux de cartes. Hein, j'aurais bien continué à en faire. Mais enfin bon, ça ne s'est pas trouvé.
Vous en gardez des bons souvenirs.
Ouais, à cette période-là, tout à fait, oui.
Et les jeux de rôle, vous en faites plus du tout ?
Si, parce qu'en ce moment, il y a une petite remontée, surtout Rêve de Dragon. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Denis Gerfaut pour Rêve de Dragon. Et là, depuis l'année dernière, c'est tout récent, hein, il y a une association qui s'appelle Scriptarium qui a relancé ce jeu via Internet, via la souscription, etc., pour faire des tirages papier, pour rémunérer à nouveau les auteurs. Et ça a très, très bien fonctionné. En 3 jours, ils ont eu plus qu'ils n'espéraient. Du coup, cette année, il y a des couvertures à faire à nouveau, des illustrations pour Rêve de Dragon. Et j'ai été contactée par une autre maison d'édition, alors le nom échappe là, mais bon, qui voulait rééditer Ambre, pareil, le jeu de rôle Ambre, avec la réédition aussi du Tarot d'Ambre, qui est devenu mythique, et qu'une certaine partie de collectionneurs cherchent en ce moment sans le trouver, parce que même moi, j'en ai plus. Donc peut-être que ça va reprendre ces deux anciens jeux de rôle, ça serait drôle.
Donc alors là, ça c'est les années 80. Dans les années 90, donc vous attaquez en fait vraiment la bande dessinée. Mais cette fois-ci, à ce moment-là, que dans l'illustration, enfin le dessin.
Ah oui, au début.
Et pas du tout dans le scénario.
Ah non, pas du tout, c'était avec Rodolphe.
Voilà, donc c'est la rencontre.
Le premier album, c'était avec Rodolphe. Donc c'était l'autre monde, c'était en 89, 90 même, réalisation de l'album en 90. Et mes premières dédicaces en 91 à Angoulême, en janvier 91. Donc c'est paru à Angoulême même, le tout premier album de Béni. J'étais malade 3 jours.
Le trac.
Ah ouais, terrible. Et puis voilà, puis ça a démarré comme ça, donc avec...
Et comment est né ce projet alors, c'était un...
Ben, il n'a pas été fait pour moi initialement. Rodolphe avait écrit ce projet, le synopsis, hein, un petit résumé quoi, de l'histoire. Et puis en fait, moi j'ai été contactée par le vaisseau d'argent, en l'occurrence Christian Godard et Julio Ribera, qui faisaient Le Vagabond des Lames, enfin qui faisaient plein de séries, mais Le Vagabond des Lames entre autres, et qui avaient lancé leur propre maison d'édition, Le Vaisseau d'argent. Et puis ils ont vu mes illustrations, ils m'ont contactée, ils m'ont encouragée à faire de la BD, je n'étais pas très chaude au départ. Hein. Je n'étais pas sûre de savoir, enfin ça me semblait un domaine un peu étranger à ce que j'avais fait jusqu'à présent. Quoi. Et ils m'ont soumis ce texte qu'ils avaient, que Rodolphe leur avait donné, parce que l'auteur qui devait travailler dessus initialement s'était désisté, et donc ce texte lui était resté sur les bras. Donc il l'avait transmis à Christian Godard, en lui disant « bon, si jamais tu trouves quelqu'un, voilà ». Et en bout de course, ça m'est tombé entre les mains, et j'ai trouvé que l'histoire était vraiment sympa. Et après, j'ai demandé à rencontrer Rodolphe, on s'est vu, il a bien aimé mes dessins, ça a démarré comme ça.
Ensuite, c'est Marie Lanoir.
Ensuite, c'est Marie Lanoir.
Donc, une histoire de pirate.
Deux albums donc, sur l'autre monde et deux albums à nouveau sur Marie.
Donc, toujours avec Rodolphe.
Toujours avec Rodolphe, et toujours un univers un peu décalé. C'est une histoire de pirate, mais c'est plus onirique et romantique que vraiment l'histoire de pirate traditionnelle. Hein. Et puis à la fin de Mairie, j'ai vraiment été tentée par le scénario. Donc j'aurais voulu essayer de faire une histoire à moi. Et je me suis lancée avec l'héritage d'Émilie. Donc on a mis un peu de côté la collaboration avec Rodolphe. Et j'ai attaqué l'héritage d'Émilie, qui est une série en 5 albums.
Donc 100% Magnien.
Oui, et toujours chez Dargaud.
Voilà, tout
toujours
fidèle.
Le même éditeur. Oui, ouais, moi je suis plutôt fidèle. Puis enfin bon, ça roulait bien, c'est une maison sérieuse. Bon, il n'y avait pas de soucis. Donc. J'ai travaillé chez eux les 5 albums suivants, donc Héritage Émilie, qui m'ont pris quand même 8 années, ce qui est assez normal, hein, parce que c'est un an, un peu plus d'un an par album.
Il y avait 5 tomes.
5 tomes.
Ouais, c'est ça.
Donc un peu plus d'un an par album, toujours une petite période de battement avant d'attaquer le suivant. Voilà, 5 albums, généralement, c'est entre 7 et 8 ans.
Parce qu'il faut dire que pour dans l'album, on peut peut-être expliquer comment ça se réalise. Parce qu'il y a le scénario d'un côté qui est déjà compliqué.
Ouais. Ben, là,
parce que
là,
c'est souvent touffu, il faut élaguer, parce que c'est pas comme un roman, il faut...
Ouais, non, c'est... Et d'ailleurs, là, c'est peut-être le tort, rétrospectivement, que je me fais vis-à-vis de cette création. Là, l'héritage d'Émilie, c'est un peu compliqué. Parce que c'était quand même mon premier album en tant que scénariste, et je me suis un peu égarée. Je suis partie comme ça, avec une histoire quand même qui était conçue dans ma tête. Mais après, j'ai vu arriver d'autres personnages, et j'étais tentée de suivre une autre bifurcation, et puis encore une autre, puis d'exploiter à fond tout ce que j'avais. Et résultat, on est monté à 5 albums, alors qu'initialement, ça devait être en 3. Et puis, ça a pris un peu trop d'ampleur. J'étais un peu débordée par les choses. Hein. Je suis retombée sur mes pieds à la fin. Mais enfin, je me suis dit, la prochaine fois, il faut être vraiment, effectivement, il faut élaguer, il faut tenir un peu les rênes d'une main plus ferme. Quoi. Donc, les 5 albums se sont faits, et puis ils sont parus. Et puis après, il y a eu une période encore de battement, parce que j'ai fini un peu sur les genoux quand même. Hein. 8 années, c'est quand même intense, un travail qui quand même... qui part du matin, qui finit le soir, hein, c'est 8 heures par jour, très régulièrement, week-end rarement, vacances, on oublie, donc c'est quand même très très, très intense. Hein. Donc j'ai tenu le coup, et à la fin, j'avais un peu envie de souffler. Donc c'est vrai qu'après, pendant 2 ans, je crois, j'ai plus fait de BD, je suis retournée à l'illustration.
Et au niveau de tout ce qui est le travail de graphique, les couleurs.
Ah oui, la réalisation même de l'album.
Il y a le scénario, et puis
en
après.
En fait, il y a le scénario. Après, moi, généralement, je fais un cahier de croquis, donc page par page, hein, les personnages crayonnés. Après, dans ce qui concerne l'héritage d'Émilie, je transférais, mais à l'œil, hein, sans ordinateur, je transférais à l'œil les dessins du cahier de croquis sur des feuilles plus grandes. Hein, feuille de papier définitif, donc il faut reprendre le dessin à l'identique, en tout cas le plus proche possible. Après, il y avait un ancrage quand même sur cette page. Après, il y a la mise en couleur. Après, il y a rehausser l'ancrage parce que la couleur a bouffé l'ancrage. Après, il y a le texte. Alors, le lettrage, bon, c'était pas trop mon truc, donc le lettrage, c'est aussi très minutieux en matière de BD. Quand on le fait pas par ordinateur, c'est assez compliqué.
Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens maintenant font le lettrage par ordinateur. Il y a même des petits logiciels qui rajoute des imperfections en fait pour vous faire croire que c'est fait à la main. Et donc là, c'est un travail énorme, hein. Ce qu'il faut à la main, c'est dingue.
Ah, déjà, faut être doué pour la calligraphie, ce qui n'est pas mon cas. Donc ça, quand on n'est pas doué, ça implique qu'il faut quand même calibrer évidemment toutes les lettres, il faut tracer des traits. Après, il faut le faire à l'encre. Oui. Donc il faut que toutes les lettres soient parfaites. Si c'est raté, on refait une fois, dix fois, tant de fois qu'il faut. Après, il faut découper le petit bout de papier, quand même pas grand, avec un petit cutter. Après, il faut le coller sur un calque, à l'emplacement qui va lui être adjugé sur la planche. Et puis vous avez les doigts humides, et puis la colle et la bavée, et puis voilà les lettres qui fichent le camp, il faut recommencer, c'est à s'arracher les cheveux. Donc franchement, le lettrage, c'était une bête noire à la fin, mais j'ai quand même fait le lettrage sur les cinq albums. Parce que je voulais lettrer, je voulais que ça soit vraiment entièrement mon bébé, donc il fallait aussi faire le lettrage, mais c'était pas évident.
Et donc après cette pause...
Plus ce que j'ai fait, j'ai dû faire des couvertures de livres, d'autres illustrations, quelquefois des dessins de commandes.
Et donc c'est les contes aux 80, ça arrive à ça.
Après, je crois, oui, c'est les contes.
Qu'on n'a plus là, on a tout vendu. Donc c'est ma faute là. Le libraire s'est planté. Je pense pas. C'est celui qu'on a vendu très vite. Mais à coup de pas. Et donc, parce qu'il est un peu différent celui-là.
C'est pas une bande dessinée, déjà, c'est un livre illustré. Donc, c'était une collection que Daniel Maguen et Olivier Soulier, qui travaillaient avec lui.
On peut dire qui est Daniel Maguen ?
C'est un propriétaire de galerie d'art, enfin de galerie d'art, mais spécialisé dans la planche de BD.
Qui est connu dans le milieu.
Qui maintenant est très connu, qui est le leader, on va dire, des ventes d'originaux de BD actuellement. Et donc, que je connaissais depuis très longtemps, parce qu'il vendait les planches. Et puis, je me suis aperçue qu'il avait lancé cette collection de dessins fantastiques, héroïques fantasy, enfin, qui était bien dans ce que j'aime faire. Donc, je l'ai supplié à genoux de me confier un bouquin. Et donc, c'est ça, c'est les contes aux quatre vents. Alors, le prétexte, je dirais, c'est quatre vents, donc quatre paris du monde, quatre saisons et quatre mythologies différentes. Et là-dessus, des dessins. Bon, moi, j'avais fait des petits textes, mais c'est pas la bande dessinée, c'est des petits poèmes. Et puis en face, à chaque fois, une illustration correspondante.
Un album très très réussi. Hein. Je ne sais pas si vous le connaissez tout. Enfin, il y a un fan derrière qui l'a dédicacé tout à l'heure. Là. Ouais.
Et malheureusement, moi j'aurais voulu continuer. J'aurais voulu en faire un autre, dans la même chose. Quoi. Et puis la collection s'est arrêtée. Parce que curieusement, alors que je n'étais pas la seule, hein, on était, je ne sais pas, 5 ou 6 illustrateurs au moins, à avoir fait chacun un bouquin. C'était un esprit de collection. C'était vraiment des livres qui n'étaient pas chers par rapport à leur qualité, parce que Daniel fait toujours des très beaux livres. Ça n'a pas marché. Donc,
les ventes n'ont pas suivi ?
Non, c'était décevant. Peut-être que Daniel attendait trop, je ne sais pas, mais toujours est-il que la collection s'est arrêtée là, et donc je n'ai pas eu l'opportunité d'en faire. Hein, c'est dommage.
Parce qu'au niveau des ventes, on peut dire que vos albums se vendent plutôt bien ?
Ça dépend, tout est relatif, hein, vous savez.
Parce qu'aujourd'hui, les chiffres d'aujourd'hui sont passés il y a 30 ans. Hein.
Oui, voilà. Ça a chuté pratiquement de 50% en l'espace de quelques années. Là. Donc l'autre monde, il doit être à entre 30 000 et peut-être même 50 000, parce que sur 20 ans de réédition en réédition, évidemment, il a toujours continué à se vendre. Qui est assez exceptionnel parce que d'habitude.
30 000, c'est énorme. Hein.
Au bout d'un certain temps, il disparaît. Ouais. Oui, mais sur 20 ans. Donc, c'est pas 30 000. Ouais. Mais c'est un album qui a un public et qui continue à avoir des lecteurs. Alors que normalement, il aurait dû tomber aux oubliettes depuis longtemps. Hein. Par contre, l'héritage d'Emily, on doit être entre 12 000, 15 000. C'est pas mal par album, hein, je veux dire. Donc, c'est pas mal, mais c'est pas non plus un énorme succès. Les contes, alors là, c'était plutôt le flop. Mais pas moi, toute la collection n'a pas marché, pour une raison que je comprends mal, parce que là ça se vend bien, donc je sais pas, c'est assez curieux.
C'est souvent un problème en librairie, à mon avis.
Voilà.
De segmentation, ou de...
Mais aussi, les libraires ne savent pas où le mettre.
Bah oui, c'est pas de la BD, donc on le met là, on le met en jeunesse, normalement...
Ça, c'était un gros problème.
Sûrement au compte, dans les grandes librairies, ils sont dans un rayon comme ça, donc ils oubliaient. C'est possible.
C'est ça. Non, mais je pense qu'il y a compliqué. Ce problème-là. Il y a ce problème-là pour tout ce genre de livres, d'ailleurs. Tous les livres
qui sont un peu hors système.
L'illustration, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Ou alors, il faut être vraiment extrêmement connu, et encore. Parce que non, c'est... Bon, bref, il n'a pas très très bien marché. Et donc, moi, en tant qu'auteur, je suis dans une frange moyenne, je dirais, au niveau des ventes d'albums de BD. C'est moyen, c'est pas catastrophique, mais c'est moyen. Le dernier, c'est, on peut dire, pas très bien vendu. Mais d'un autre côté, encore une fois, un livre difficile
oui,
à
difficile.
Vendre. Donc, roman graphique, bon, quand même, il n'est pas cher par rapport à sa pagination, hein, mais il est cher quand même, dans la mesure où c'est quand même
30 euros.
30 euros, ouais. Voilà.
Donc 30 euros psychologiquement en librairie, c'est compliqué.
Voilà.
C'est parce que ça, là, vous êtes, bah, vous êtes dans le, presque dans le beau livre, hein, parce que 30 euros, c'est les premiers prix ouais. des beaux livres, c'est 30, 35 mmh. euros, donc... Là, vous n'êtes plus dans la BD, quoi. Donc, c'est un autre public. C'est pas, ça va pas être ça. Ouais.
C'est roman graphique. D'un autre côté, si on réfléchit un peu, c'est l'équivalent de 5 albums. C'est l'équivalent d'une...
Oui, parce qu'il y a 240 pages.
Mais oui, ouais. il y a 240 pages. Donc, en fait, en plus, c'est un très beau livre avec un toilé d'or,
oui, puis,
très beau papier. Donc, en fait, c'est pas cher. Mais c'est vrai qu'il faut quand même sortir 30 euros. Donc, voilà. Donc, c'est pas évident quand même de le vendre. Donc les ventes, en plus c'est, bon, roman graphique, c'est pas vraiment de la bande dessinée classique, l'histoire est un peu atypique, le graphisme est un peu différent de ce que j'avais fait avant, moi j'en suis très fière, c'est ce que je préfère en bande dessinée dans tout ce que j'ai fait, c'est celui-là, c'est le dernier, c'est moi qui l'ai fait, mais en plus j'avais vraiment l'impression d'avoir fait, franchi une étape, marqué une évolution, autant du point de vue de la narration, parce que c'est beaucoup mieux raconté encore que ce que j'avais fait avant, au point de vue du graphisme, je trouve que les personnages sont beaucoup plus vivants. C'est parce que j'avais remarqué avec voilà, ce que j'avais remarqué avec l'héritage d'Émilie et Mary aussi, c'est que souvent le personnage quand il est déjà au crayon, il est super, il est très vivant, il est bon. Puis après on le transfère, bon, ça va encore. Après on entre, ça commence à coincer un peu. Après on met la couleur, après on remet de l'encre, enfin bon, et petit à petit
il
ça
fige.
Se fige.
Ouais, c'est ça.
Alors que là, sur celui-ci, sur Mascarade, j'ai procédé différemment. J'avais fait tout l'album au crayonné, et après j'ai photocopié ces crayonnés en les transférant sur du papier canson, et j'ai mis en couleur sur les photocopies. Et parfois même sur du papier déjà teinté dans la masse, du papier canson de couleur bleu, rouge, voilà. Ce qui allait beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'au lieu de passer 5 jours sur une planche, j'ai 5 planches par jour, quoi, pratiquement. Et donc là, je n'ai pas mis plus de, je crois bien, 8, non, peut-être 10 mois. 10 mois pour faire l'album entier, équivalent donc de 8 années de travail. Donc j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé mon style, ma place exacte en BD. Et donc je me suis précipitée ensuite pour faire un autre projet dans le même genre et dans la foulée, qui s'appelle Noctambule, qui est complètement écrit. Les personnages, les costumes, les décors, un dossier épais comme ça. Et puis Daniel, là-dessus, n'en a pas voulu. Et pour trouver un éditeur, rien à faire. Donc, le projet, pour l'instant, est en stand-by. Et ça, c'est un peu désolant. Quoi. Mais bon.
Et du coup, il y a d'autres projets à côté ou c'est vraiment
il y a d'autres projets à côté. Il n'y a pas que celui-là. Puisque là, coup, Rodolphe, de son côté, lui, avait commencé d'écrire un troisième cycle pour L'Autre Monde, qui n'a pas été pris par Dargaud, mais qui a été pris par Claire de Lune. Pierre Léonie, Claire de Lune. Donc, du coup, je vais commencer ce troisième cycle, mais avec plaisir. Hein. Je ne dis pas que j'y vais comme l'échafaud, pas du tout, parce que j'aime bien travailler avec Rodolphe, qu'en plus, L'Autre Monde, c'est un univers et des personnages auxquels je suis quand même attachée. Et en plus, ce troisième cycle, moi, me plaît bien. Enfin, l'histoire, je pense qu'on va faire vraiment des beaux albums, c'est à nouveau en deux parties, hein, comme les albums précédents. Donc voilà, donc ça, c'est très bien. Mais j'ai quand même le regret de pas avoir arrivé à placer mon propre
pour
projet.
L'instant.
Pour l'instant, oui, exactement. Oui, ça peut,
peut-être
ça
que
peut
les ventes,
se faire,
les ventes avec Rodolphe vont relancer, du coup, ça va...
On peut imaginer ça, on peut imaginer quand même aussi, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas montré à beaucoup d'éditeurs, c'est dire. Hein. Si je ratisse vraiment large, il y a peut-être un qui va dire, oh là là, c'est magnifique, c'est formidable, allons-y. Il ne faut pas non plus tout voir en noir. Hein. Mais c'est vrai quand même qu'en ce moment, globalement, c'est plus difficile de vendre de la BD, il y a beaucoup de surproduction et les éditeurs sont de plus en plus difficiles à convaincre, paradoxalement. Donc c'est vrai qu'en ce moment, la période est quand même pas... Je vois bien quand je parle avec d'autres illustrateurs, hein, je ne suis pas la seule, c'est difficile de placer un projet, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus aussi de livres qui voient le jour par souscription sur Internet, parce que les éditeurs ne suivent pas, et quand on a un projet auquel on tient vraiment, eh ben quelquefois il faut en passer par là, mais c'est pas évident quand même.
Ça va pas s'arranger.
j'espère que si, mais bon.
Une légende, oui, c'est pas...
Ouais.
Mais oui, ce qui est paradoxal, mais c'est partout pareil, hein. C'est dans le roman, c'est la surproduction, elle est...
ouais.
Dans tous les secteurs, c'est même...
Ouais, mais c'est curieux, parce que surproduction, a priori, on devrait pouvoir signer comme on veut, mais pas du tout,
ouais.
C'est plus difficile de signer.
Bah, les éditeurs sont frileux, ils veulent du best-seller absolument, donc c'est
compliqué. Je sais pas, mais enfin bon, voilà.
Et alors, est-ce que vous donnez, pour ceux qui ne connaissent pas trop, la différence profonde entre l'illustration et le dessin de BD, en fait, à part le mouvement?
Pour moi, l'illustration, c'est ça le mouvement, c'est ça c'est l'essentiel, la différence essentielle, elle est quand même là, parce qu'une illustration, pour moi, c'est plus proche de la peinture, l'illustration. C'est pas vraiment de la peinture, parce que la peinture, c'est une quête intérieure, c'est autre chose. L'illustration, c'est par rapport à un texte, mettre ce texte en valeur avec un dessin. C'est quand même, la démarche n'est pas la même. Mais au niveau graphique, ça ressemble quand même un peu, parce que c'est généralement plutôt du dessin figuratif et classique quand même. Il y a rarement des couvertures abstraites, ça ne serait pas. Hein. Il faut vraiment dire un petit peu ce que contient le livre. Donc c'est quand même plus proche de la peinture. Et puis vous allez avoir un personnage que vous allez choisir, une scène que vous allez choisir dans le texte. Ça va être quand même quelque chose de stable. Votre personnage, il va être comme ci, comme ça, il y a un décor. Si même vous n'avez pas envie de vous embêter avec la morphologie, vous lui faites une grande robe. Enfin, on peut, à la limite, on peut trichoter entre guillemets un petit peu. Et puis voilà. Puis après, il faut faire l'image la plus belle possible. Et puis c'est fini. Dans une bande dessinée, c'est tout à fait différent parce que vous allez avoir plusieurs personnages, pas qu'un. Et en plus, il faut qu'ils se ressemblent de page en page. Et puis, ils vont bouger sans arrêt. Et puis, on va avoir des jeux de physionomie. Et puis, donc, les mouvements de caméra. Donc ça, on est beaucoup plus proche du cinéma. Pour moi, c'est vraiment metteur en scène. Donc, c'est un peu différent. C'est pas le peintre, c'est le metteur en scène.
Et dans le cas de Zelazny, il avait vu les...
Il
a donné un avis, il a dit quelque chose.
Non, il n'avait pas donné un avis, mais je les avais déjà fait de toute façon. J'avais réalisé déjà les couvertures, il y a eu une petite expo, et il était invité, donc il est venu, il a regardé, il a eu l'air d'apprécier, mais enfin moi je ne parle pas anglais, il ne parle pas français. Donc on en est un peu resté comme ça, faire des grands sourires. Puis voilà, réciproquement, mais enfin il les a vus, ouais.
Et est-ce que vous pouvez donner vos sources d'inspiration? Est-ce que vous avez des illustrateurs un peu fétiches ou pas?
Moi, c'est plutôt quand même, enfin, une parmi d'autres, hein, y a pas que ça, mais c'est beaucoup quand même les illustrateurs anglais, plutôt 19e siècle, ou actuellement Alan Lee, des gens comme ça. Il y a aussi un peu Patrick Woodroffe, mais lui, c'est quand même plus délirant ce qu'il fait. Enfin, c'est plus l'illustration quand même, ma racine, c'est plutôt l'illustration et l'illustration classique, Rackham, Gustave Doré, etc.
D'accord, ah oui, ok. J'ai vu aussi, vous avez un rapport aussi à l'Irlande. Alors là, on parle plutôt de...
C'est l'héritage d'Émilie, plutôt.
Oui, tout ce qui est celtique, vous pouvez nous en parler un peu?
Oui, bon, écoutez,
est-ce que ça perdure, d'ailleurs?
Ça m'a un petit peu passé, mais pendant un moment, c'était beaucoup lié à la musique, hein, parce que j'étais fan de musique celtique, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça me... Donc après, c'est surtout par la musique que je suis allée en Irlande, et qu'après, j'ai mis un petit peu d'Irlande, comme ça, dans l'héritage d'Émilie, encore que ce n'est pas vraiment une histoire sur l'Irlande, ou vraiment qui se passe entièrement en Irlande, parce qu'après, on a accès à des univers décalés, donc ce n'est pas franchement irlandais. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé faire un album, une histoire vraiment sur l'Irlande. Maintenant, bon, ça s'est pas trouvé, puis là, maintenant, je suis partie vraiment sur un peu d'autres choses, hein, d'autres styles de recherche.
Et comment se passe l'élaboration? C'est-à-dire, comment vous travaillez? Vous êtes c'est chez vous? Vous avez un atelier?
Ah oui, c'est chez moi. J'ai un atelier chez moi, dans mon appartement, ce qui est bien pratique, parce que j'ai juste un escalier à monter, et voilà, je suis au travail. Donc voilà, je travaille seule.
Au calme, plupart, ou en musique ou...
J'ai été en musique pendant des années, maintenant c'est au calme. Je ne sais pas si c'est en prenant de l'âge peut-être, ou peut-être aussi parce que j'ai quand même du monde dans l'appartement, donc c'est vrai que les moments vraiment de calme sont à savourer. Et puis j'ai besoin pour me concentrer de plus en plus quand même d'être au calme. Ouais. Non, je pense que c'est lié vraiment à l'âge. Je pense que quand on est plus jeune, on supporte beaucoup plus, et même non seulement on supporte la musique, mais même on a besoin de la musique. Pendant longtemps, moi, j'ai mis vraiment à la musique, et même je la mettais des fois assez fort, et je chantais en plus, et bon, et voilà, ça me portait. Et maintenant, c'est plutôt le silence. C'est niveau, pour moi, c'est naturel, maintenant, ça ne fait peut-être pas ça à tout le monde, hein, je ne sais pas. Mais enfin, moi, pour l'instant, c'est plutôt dans le calme.
Et dans les différentes étapes de la réalisation, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Qui vous procure le plus de joie ou de... Parce que le lettrage, on a compris que ce n'était pas votre truc.
Non, c'est pas tellement créatif non plus, hein, le lettrage. Mais j'hésite en fait, parce que c'est vrai que le crayonné, c'est un vrai bonheur, mais alors il ne faut pas que ça soit trop contraignant. Faut pas... Par exemple, sur une bande dessinée, si je travaille avec un scénariste, quelquefois ça va être un peu dur de, je dis ça parce que c'est ce que je vis en ce moment, de reprendre le harnais, je veux dire. Parce que là, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de BD, donc là, je reprends. Et c'est vrai que les planches, ça fait quand même 8 petits dessins par page. Donc, on a des indications. Un tel est avec un tel dans le jardin, dans la maison. Il dit ceci, il dit cela. Chose est assis sur une chaise, machin est penché à la fenêtre, j'en sais rien. Et donc, c'est quand même assez contraignant parce qu'il faut suivre vraiment une ligne quand même assez précise. C'est pas toujours forcément ce que j'ai envie de faire. Donc ça, c'est vrai que là, il y a un moment un peu dur où il faut à nouveau se remettre dans le bain. Et puis les dessins viennent de plus en plus facilement. Après, il y a un rythme qui se met en route. Hein. Par contre, s'il s'agit de dessins que je fais vraiment pour mon plaisir, comme ça, là, c'est vraiment formidable le crayon parce que ça vient avec une facilité formidable. Ça, j'adore ça. Et puis, mais il y a aussi la mise en couleur. La mise en couleur, c'est pareil, c'est quand même un moment que j'aime beaucoup. C'est l'ancrage que j'aimais pas tellement. J'étais pas tellement douée pour ça.
Et comment ça se passe l'ancrage, concrètement, vous êtes,
Ben, concrètement, pour moi, après, il y a différentes techniques. On peut travailler à la plume, au pinceau. Moi, c'était le pinceau, parce que la plume, jamais pu. Donc, il y avait le pinceau. Pendant un moment, c'était ce qu'on appelle les hard pen, mais c'est du tubulaire, donc c'est très raide. Et le trait, ça manque de souplesse. Moi, j'ai besoin un petit peu de souplesse. Donc après, finalement, j'ai travaillé avec des petits feutres très fins, qui sont quand même un petit peu souples. Ou alors carrément le pinceau, un peu japonais, quoi, qui a des poils très effilés, comme ça, très longs. On met des recharges, on n'a pas besoin de le tremper dans l'encre. Voilà, il y a un long débit. Et ça, ça me convient bien. Et avec ça, on peut arriver à faire des traits vraiment très fins et modulables. Ça peut aller du plus fin au plus épais. Donc c'est assez agréable de travailler comme ça. Mais encore une fois, quand même, c'est pas l'ancrage. L'ancrage me demande un effort. Je m'en sors, mais ça me demande un effort. Alors que le crayonné et la mise en couleur, pour moi, c'est plus naturel.
Et est-ce qu'il y a des techniques qui vous tentent, que vous n'avez pas encore réalisées?
Ah ben, à l'ordinateur. Parce
qu'il y a une évolution continue dans votre parcours, au niveau même technique,
ouais,
parce que ça évolue, même
pense,
là on voit bien la différence avec...
Dans Mascarade, laquelle dernier qui est paru en novembre 2014, donc c'est pas très ancien,
c'est récent, hein.
Moi je trouve qu'il y a quand même une évolution que j'aurais voulu justement poursuivre.
Oui, ça se voit.
Le projet suivant, là qui n'a pas été pour l'instant, qui n'a pas trouvé amateur, mais c'était Noctambule, et le concept du livre c'était vraiment... la moitié, si ce n'est pas les deux tiers, même, devait être en noir et blanc, au crayon noir, crayon de couleur noire, donc un trait un peu fort, sur un papier un peu à peine ocre. C'était ça le but, hein. En mettant un tout petit peu, mais ça c'était en rapport avec l'histoire, mais en mettant des petites touches de couleur, mais très légères, par-ci, par-là, et puis aussi, quand l'histoire s'y prête, quand il y a une raison, de faire quand même des planches couleur. Voilà, ça c'était le concept de ce livre-là, donc encore plus dépouillé, et plus libre dans le trait que Mascarade. Bon, pour l'instant, ça n'a pas trouvé preneur, mais c'était ça. Donc moi, mon objectif, c'est d'aller en bande dessinée, je dis bien en bande dessinée, vers quelque chose de plus en plus lâché, de plus en plus rapide, de plus en plus vers l'esquisse, la chose vraiment complètement lâchée, sincère. C'est ça que j'aurais voulu atteindre, en même temps qu'une recherche narrative un peu plus intime, un peu plus poussée, qui parle de choses qui me tiennent vraiment à cœur, alors que l'héritage d'Émilie, on est plus dans le fantastique, différent, voilà, une histoire vraiment pour voyager, pour rêver. Là, j'aurais voulu aller vers quelque chose d'un peu plus fort. Bon, ça, c'était vraiment le but, quoi. Donc,
Et est-ce qu'on peut imaginer un scénario 100% sans dessin?
Sans dessin?
Ouais, faire qu'un scénario.
Ah, de ah, vraiment renversé, scénariste, voilà, alors. Ouais. Uniquement scénariste.
Ça vous plairait, ça, ou pas?
Ça c'est peut compliqué. Être compliqué,
ouais,
parce
ça,
que
ouais.
Faire le scénario, oui, je pense que je pourrais. Enfin, encore que c'est pas facile de trouver une histoire, hein, parce que moi, je mets du temps, hein, pour trouver une histoire. Ça ne me vient pas rapidement. C'est une longue réflexion, c'est un long mûrissement. Là, c'est des fois deux ans, trois ans. Il faut dire aussi que comme le travail est morcelé, qu'on n'est pas rémunéré pour trouver une histoire, pendant tout le temps où je vais chercher à scénariser, en couvrant des cahiers et des cahiers, en clavier, etc., faut que je travaille. Donc c'est toujours saucissonné, une heure par-ci, deux heures par-là, trois jours, oh, formidable. Bon, donc ça prend évidemment assez longtemps dans ces conditions-là. Donc c'est pour ça que le scénario quand même est long à faire. Et alors après, le problème, je pense, si je trouvais une histoire, c'est que j'aurais envie de la faire. Si je la confie à un autre dessinateur, ça va être très compliqué. Parce que je vais être très chiante, je vais être sans arrêt sur son dos. Non, mais là, je ne le sens pas comme ça. Oui, non, mais là, les couleurs... C'est... Voilà, donc je pense qu'il faudrait mieux qu'à ce moment-là que je fasse moi-même.
Ouais. Et alors, pour... bon, moi j'arrive au bout de mes questions, mais au niveau, parce que souvent on ne se rend pas compte, mais c'est assez compliqué de vivre de son art, surtout en ce moment. Donc on comprend bien que vous ne vivez pas que de la BD en fait. Entre
bah, je fais
vous arrivez à faire des choses à côté,
ouais, c'est des illustrations. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Non, non, je vis entièrement du dessin. Enfin, mais après, c'est de l'illustration. Alors, quelquefois, je fais des dessins de commande. Il y a des personnes qui me contactent, qui me disent ah, j'aimerais bien, par exemple, j'aimerais bien deux personnages dans une bibliothèque qui ressemblent un peu à la couverture de l'autre monde. Bon, d'accord, on se met d'accord sur le format, la technique, le prix. Là, je le disais, il y a le rêve de dragon donc, qui est en train de renaître un peu de ses cendres. Donc là, c'est aussi des illustrations couleurs à faire donc, pour ce jeu. Pas les couvertures de livres, ça, j'ai laissé tomber. Puis ça devient aussi difficile de trouver du travail dans ce secteur-là. Par contre, oui, des dessins de commande, oui, des illustrations pour les jeux de rôle, puisque bon, ça redémarre un peu. Et puis voilà, mais c'est de façon assez ponctuelle. Par contre, si pendant le temps de réalisation d'un album, par exemple L'Autre Monde, troisième cycle, là actuellement, bon, bah, c'est vrai qu'il faudra, pour des raisons économiques, que je travaille en parallèle. Mais ça, je l'ai fait, c'est pas un souci, puisque je l'ai fait pendant des années. Bah, alors évidemment, vous ne pouvez pas prendre tout ce qui se présente, parce que vous n'allez jamais avoir le temps de faire l'album et puis je sais pas combien d'illustrations par mois, donc faut que ça reste léger quoi, deux même pas une illustration, ça dépend de la taille aussi du travail à faire, mais une ou deux par mois et puis en même temps les planches. À ce rythme là oui, on peut en vivre quand même.
Et tout ce qui touche au numérique, vous êtes comment par rapport à ça?
Ben, j'aimerais bien tester.
Donc, vous n'êtes pas du tout numérique, hein?
Pas du tout.
Aucun des albums n'est...
Du tout, du tout. C'est que du traditionnel, comme on dit. Il n'y a pas du tout de numérique. Alors j'aimerais bien, hein, je ne suis pas contre hein, l'ordinateur. On fait des trucs vraiment super, voilà, ça donne envie d'essayer. Mais je n'ai pas le temps. C'est aussi bête que ça. Déjà, je ne suis pas très douée avec l'ordinateur. C'est pas, j'ai un petit blocage avec ça. La machine ne m'attire pas vraiment. Autant il y a des illustrateurs qui se mettent devant et qui arrivent à faire tout de suite des trucs. Moi, je sais que ça va être une galère pas possible pour maîtriser l'engin. Bon, déjà, je peux quand même essayer. Et c'est vrai que ça m'a tenté parfois. Mais il faudrait que j'ai quelqu'un un peu pour me guider, parce que ça ne va pas me venir comme ça. Et puis, je n'ai pas le temps, tout simplement, parce que les planches s'enchaînent, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire et que ce n'est pas quand même mon objectif numéro un, quoi. Mais j'aimerais bien, c'est un outil intéressant.
Et vos livres sont numérisés, on peut les acheter en fichier numérique?
Oui, sur Dargo, sur le site de Dargo.
Oui, donc d'accord. Ouais. Vous avez passé le cap
Oui, pour eux, oui. Bah, j'ai donné mon autorisation.
Ouais, d'accord. Bon, ben bah voilà, on a fait un bon petit tour. Si vous avez des questions, c'est le moment.
La mise en couleur, vous la faites comment? C'est de l'aquarelle?
Ah oui, bah, ça dépend des albums. Sur Mary, c'était vraiment, je m'étais mis en tête de faire vraiment des petites illustrations, presque à part entière, ce qui était une erreur par rapport à la bande dessinée, parce que ça fonctionne mieux quand c'est plus léger. Hein. Mais je voulais vraiment aller jusqu'au bout. Alors donc, c'était vraiment de l'acrylique. Hein, donc c'est peinture à l'eau, hein, mais c'est de la peinture indélébile, donc on peut retoucher, on peut revenir dessus, on peut, voilà. Donc ça c'était pour Mary. Sinon c'était, ben, je vous dis, il y avait quand même un ancrage, sur l'héritage d'Emily, il y a quand même un ancrage, léger, mais quand même il est là, et si vous regardez sur les 5 albums, au début c'est vraiment très léger, à peine un fil, et à la fin il y avait un ancrage qui était quand même beaucoup plus dessiné traditionnel, qui était quand même bien monté, hein. Et c'était des encres, et généralement ça l'est toujours, quoi, c'est des encres avec des petits rehauts d'acrylique ou de gouache, quand il faut donner un peu plus de relief, c'est pas très compliqué. Et sur Mascarade, je vous avais dit, le traité est un peu différent, parce que c'est une mise en couleur sur des photocopies, mais donc c'est un peu plus léger, c'est plus, c'est des encres, c'est pas de l'aquarelle, mais enfin ça a un effet un peu aquarellé, hein, avec des crayons, ça peut être aussi même des crayons de couleur, j'aime bien le crayon de couleur. Et pareil, des petits rehauts de gouache quand le besoin s'en fait sentir. Mais le but, c'était quand même d'alléger la couleur le plus possible.
Vos albums s'adressent à quel âge? C'est pour les jeunes, non? C'est à partir de quel âge à peu près?
Je dirais, l'autre monde, c'est tout public. Hein. L'autre monde, c'est pas pour les tout petits. J'ai pas fait de choses pour les tout petits. Mais autrement, franchement, ça, c'est un album qui est vraiment. J'ai aussi bien des personnes, même âgées, qui viennent parce qu'il y a un côté très illustration traditionnelle. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, qui viennent en me disant, moi, j'aime pas la BD, mais ça, j'aime bien. Donc en fait, c'est vraiment
un Père Noël.
Public. Il y a un Père Noël. Ça peut plaire à des enfants, parce que l'histoire est très, très cool, très douce. Hein, y a pas de, voilà. Ça peut plaire à des enfants, à des adultes. Moi, je suis partie de ces adultes qui aiment bien l'illustration pour enfants, donc ça ne me gêne pas du tout. Et même, je vous dis, des personnes qui ne sont pas forcément attirées par la BD et qui vont bien aimer cet album parce qu'il est un peu atypique. Donc non, ça... Alors, peut-être Mascarade est plus pour adultes.
Oui.
Contrairement à ce que laisse supposer la couverture parce qu'il y a une enfant, mais c'est plus pour adultes. L'héritage d'Émilie aussi, parce que l'histoire est un peu compliquée. Sinon, c'est pas...
C'est un peu plus... Il y a beaucoup de masques.
Bah oui, comme le nom l'indique. Hein.
J'en ai plein d'autres comme ça. Hein.
J'y ai pensé, mais alors c'est quand même un gros bouquin, c'est un gros projet, ça serait comme Mascarade, hein, c'est à peine plus petit, à la limite il pourrait faire 200 pages, mais enfin c'est quand même 200 pages. Hein. Donc même s'il irait assez vite dans sa réalisation, je pense, il faut quand même que moi je puisse vivre pendant un an, et puis quand même après j'aurais voulu, ça sera peut-être pas possible, mais j'aurais voulu que ça soit un petit peu comme Mascarade au niveau de qualité de fabrication, ça revient quand même cher. Et alors ça, par association, par participation, oui, très bien. Mais alors après, il faut quand même tout gérer. Hein. Il faut être gestionnaire, il faut recevoir les chèques, il faut faire attention. Ensuite, quand vous allez renvoyer les albums finis, normalement, vous faites des cadeaux en fonction du chèque que vous avez reçu. Donc il y a toute une gestion derrière, une comptabilité qui est quand même pas rien, qui est lourde. Hein. Ensuite, vous allez vous occuper de la fabrication. Il va falloir surveiller la fabrication, aller chez l'imprimeur. Après, l'imprimeur s'est planté, il faut refaire. Bon, tout ça, c'est à s'arracher les cheveux. Après ça, vous allez avoir la diffusion. Qui va diffuser le livre? Si on diffuse le livre, ça coûte une fortune. Si vous le diffusez vous-même, il va falloir que vous soyez en dédicace tous les week-ends. Ça pose des problèmes. C'est pas, oui, c'est une possibilité, mais c'est pas facile à gérer. Moi, je me sens pas trop de taille, hein, surtout sur un projet comme celui-là. Sur un projet plus léger... J'avais un projet de Zodiac Celtique, mais ça pouvait être même un livre souple, ça pouvait être juste des illustrations, plus un petit peu comme les contes aux quatre vents, mais même moins beau que les contes aux quatre vents. Ça pouvait suffire, ça pouvait être sympa à faire. Et là, oui, via Internet peut-être, parce que ce serait quand même moins onéreux à réaliser. Mais un livre de BD comme Mascarade, je suis un peu sceptique. Ça ne paraît pas évident. En tout cas, moi, je me sens pas trop de taille. Puis, il faut être très présent sur les réseaux sociaux. Hein. Faut tenir les gens quand même attentifs à ce que vous faites. Il faut publier des planches. Il faut dire, voilà, j'en suis là. Et après, je ferai ça. Et puis, si je réfléchis... Moi, ça me saoule un peu. Parce que déjà, répondre à mes mails, ça m'embête. Je sais pas. Mais c'est une possibilité. Moi, j'envisageais ça, mais plus pour des projets plus légers, quoi.
Vous n'avez jamais pensé vous tourner vers la littérature de jeunesse, l'illustration d'albums de jeunesse?
J'ai commencé par ça. Enfin, j'ai commencé. J'aurais voulu, au tout début, alors vraiment, au tout début, parce que justement, je faisais déjà du dessin un peu fantastique. Bon, je me suis plutôt tournée vers l'illustration jeunesse, mais ça n'a pas marché. Et donc, voyant que ça ne marchait pas, je suis allée vraiment, j'ai ratissé de plus en plus large et je me suis retrouvée dans les locaux de Cassius Belli et c'est comme ça qu'après, je suis enclenchée sur les jeux de rôle, et puis des jeux de rôle, collection, ado adulte, présence du futur, etc. Mais pourquoi pas, moi j'aimerais bien, hein, je ne suis pas contre du tout le fait de faire de l'illustration jeunesse, ça ne s'est pas trouvé, c'est tout aussi. J'ai fait quand même quelques livres pour Hachette Jeunesse, mais des pockets, hein, des livres de poche pour Hachette Jeunesse, mais des livres de contes, vraiment des beaux livres pour enfants, ou des choses même sur Noël, j'aimerais bien faire des contes de Noël, choses comme ça, ça pourrait être vraiment sympa. Ça s'est pas trouvé. Mais là, j'ai pas beaucoup démarché dans ce secteur. Donc.
Les gens de jeux de rôle, ils ont grandi, ils ont eu des enfants, puis ils ne seraient pas là à acheter des livres.
Oui, mais moi, en plus, j'avais proposé à Daniel, quand même, à l'époque où il y avait cette collection, là, après avoir fait les contes aux quatre vents, de faire un livre entier sur Noël. vraiment ce que sur Noël, les contes de Noël, on a besoin d'en inventer, mais enfin bon voilà, faire quelque chose, vraiment, tout un livre comme ça, ça aurait été vraiment, moi j'aurais adoré ça. Et puis bon, sur ces entrefaites, la collection a disparu, donc le livre de Noël ne s'est évidemment jamais fait. Mais oui, pourquoi pas. J'avais contacté aussi une maison d'édition jeunesse, je ne me rappelle plus le nom, je sais qu'ils sont en Belgique, c'est connu, enfin bref. Et puis c'était, oui, mais vraiment spécialisé dans le livre pour enfants. Et ils voulaient, dans le dossier qu'ils demandaient, il fallait que ce soit de l'animalier. Pas pourquoi, mais il voulait absolument de l'animalier. J'avais commencé à faire une histoire d'une famille de furets. Et donc, j'ai commencé à dessiner déjà ma famille de furets, ce qui leur arrive, tout ça. La petite furette qui voulait devenir avocate, vraiment, tout ça. Et puis ça ne s'est pas fait parce que juste au moment où j'allais envoyer le dossier, c'était quand même, il fallait mettre en couleur, c'était quand même assez conséquent hein, ce qu'il demandait. Il y a, je ne me rappelle plus, mais je suppose qu'il y a un album de BD qui a dû démarrer. Et puis, du coup, j'ai laissé les furets dans le tiroir et ça ne s'est pas fait. Mais peut-être qu'un jour, je me tournerai vers le dessin jeunesse. Mais en ce moment, je me suis laissé dire par des personnes qui travaillent dans ce secteur que c'était aussi très difficile de trouver du travail.
Sur donc, production aussi.
Oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais, donc, il y a 20 ans, il n'y avait pas autant de production, non. Même en littérature de jeunesse.
En librairie, c'est la folie.
Dans les années 2000, il y avait pas mal d'albums de jeunesse qui sont parus, qui ont permis justement aux auteurs de se faire connaître.
Et surtout, ils sont les illustrateurs dans la jeunesse sont très mal payés. Quoi. Les taux sont très bas.
Oui,
hein. Donc, c'est pire que la BD. Hein.
Oui.
Il y a tellement d'illustrateurs. Ah oui, c'est un vrai problème.
Ouais.
Hein. Là, il y a eu une manifestation il n'y a pas longtemps au salon de la jeunesse de Montreuil, avec la charte des auteurs. Là, ils étaient, c'était une manif avec des banderoles. On meurt, quoi, payez-nous. Non, il y a un vrai problème. Donc, je ne suis pas sûr que.
Non, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas évident. Hein. Moi, je sais qu'il y avait des jeunes parfois qui venaient me voir en dédicace avec leurs parents, des fois derrière même, et puis des dessins quoi, qu'ils avaient fait pour l'occasion. Et moi, il y a encore très peu de temps de ça, enfin, très peu de temps, quelques années, 4-5 ans, hein, j'aurais dit oui, mais bien sûr, allez-y, si on y croit. Là, là. Maintenant, je suis un peu plus réservée, hein, parce que ça devient vraiment très difficile. Hein. Démarrer en ce moment, franchement. C'est pas évident, hein. Ou alors il faut avoir vraiment
des à côté.
Un travail en plus ou être aidé.
Mais de plus en plus, les illustrateurs en jeunesse, en tout cas c'est ce qui se passe, font un autre travail à côté. Ils font ça en plus le week-end ou le soir.
Oui, mais moi je connais beaucoup aussi d'illustrateurs qui donnent des cours de dessin aussi. Ouais. Si on veut vraiment rester dans le même bain, à ce moment-là on peut donner des cours. Mais mais ça devient vraiment difficile. Et même en dédicace, on voit bien quand même avant, on venait juste dédicacé. Maintenant, vous avez de plus en plus quand même de dessinateurs qui amènent des dessins, des originaux, des petits carnets, je ne sais quoi, parce qu'il faut rentabiliser à tout prix, parce qu'on s'en sort plus.
D'ailleurs, nous, pour le festival, on a énormément de problèmes pour avoir des illustrateurs BD.
Ah,
parce que quasiment tous, ils veulent être payés maintenant.
Ah bon?
Ils viennent plus gratuitement. Non, c'est en train de se généraliser.
Il y a peu de festivals quand même qui rémunèrent leurs auteurs.
Ah, mais ça va donner la règle, hein, parce qu'en fait, les nouvelles lois qui sont passées, c'est-à-dire que quand un festival est subventionné par l'État ou par la région, il sera obligé d'appliquer la charte des auteurs. Et là, vous devrez rémunérer l'auteur comme une animation. Donc, et le message a bien été passé, ce qui fait que maintenant, c'est compliqué. Notamment dans la BD. Dans les romans, c'est assez... En BD, ça se généralise.
Mais c'est-à-dire aussi pour la défense des auteurs, c'est-à-dire qu'en roman, vous mettez juste amicalement,
oui,
machin. Quand vous êtes dans la BD, vous faites un dessin, c'est quand même assez compliqué.
C'est quasiment une œuvre. Hein,
c'est pas évident. Hein, c'est une œuvre vite fait, mais enfin quand même, ça demande une concentration énorme. Mais ça dépend des auteurs. Il y en a peut-être qui font ça avec naturel et tout. Alors c'est vrai qu'on a une galerie de personnages, que le dessin de dédicace, c'est pas un dessin quand même complètement abouti, qu'on refait toujours un peu les mêmes personnages. Mais malgré tout, ça demande quand même une concentration. C'est quand même quelque chose qui a un investissement réel. On finit la journée, moi je suis ramassée avec une éponge. Hein, et vraiment, c'est quand même, bon, quelque part, c'est vrai que 2 jours d'affilée, c'est long. Parfois 3 jours, je peux dire qu'après, il faut 2 jours de récupération, hein, franchement. Donc c'est un petit peu normal d'être rémunéré. Ou alors, il faut pouvoir vendre sur place, ce qu'on fait d'ailleurs presque tous maintenant, des petits dessins, des petites choses, des portfolios. Bon, pas trop cher. Et puis là, bon, il y a un public aussi pour ça. Parce que c'est vrai que sinon, vous n'en sortez pas. Parce que déjà, vous êtes mal payé. Si en plus, vous passez 2, 3 jours, voire 4 jours sur des festivals, déjà, vous travaillez quand? Je veux dire, si c'est pas rémunéré, c'est pas possible. C'est pas jouable. Donc il y a un moment où.
C'est compliqué.
C'est pas, oui, c'est un des problèmes de. Alors c'est vrai qu'avant, il y a quelques années, peut-être parce que c'était plus facile de trouver travail ou qu'on était peut-être un peu mieux rémunéré, je sais pas. Mais c'est vrai que bon, il était impensable de se faire payer quand on était en festival, hein, ça se faisait pas du tout. Et puis les auteurs venaient effectivement peut-être plus facilement parce que par ailleurs ils gagnaient leur vie assez correctement. C'est plus le cas, donc c'est ça le problème.
Voilà. Mais bravo.